Voilà, donc bienvenue dans les locaux de Pierre, qui héberge en propre sud d'éducation. Et donc l'idée, c'était d'organiser à plusieurs ce soir un débat autour de la maîtrise de la langue et des discriminations. Avec, voilà, moi je suis spécialiste de sud d'éducation et puis je vais laisser les personnes organisées se présenter.
La soirée ce soir, c'est Sud Éducation, la CNTSO et le collectif FLE, que beaucoup de gens connaissent ici. Voilà, un collectif de formateurs de français, en gros. Hein. Et voilà, ben, on a décidé de faire venir Stéphanie Clerconan pour qu'elle nous raconte un peu son travail.
C'est sur quoi je travaille. Merci d'être là. Et puis, bon, l'idée, c'est pas de faire une conférence, mais d'échanger avec vous. Le propos sera d'ailleurs, je pense, suffisamment polémique pour qu'on en discute, à moins que le débat soit animé. Je voudrais remercier Sud, qui est actuellement mon syndicat de rattachement, Sud Éducation, et la CNT, qui est un de mes syndicats de prédilection. Et je lis la revue Notre École, notamment, avec toujours beaucoup de passion. Qui a d'ailleurs fait un bel article sur l'ouvrage qui circule là, disant que c'était un ouvrage très attendu, et le collectif FLE que je n'avais pas encore rencontré. Donc merci de cette possibilité de discuter de maîtrise de la langue et de discrimination qui interroge pour nous les questions de rapport de domination et de notre rôle que nous, sociolinguistes, alors je suis sociolinguiste et sociodidacticienne, c'est-à-dire une didactique qui s'appuie sur des pratiques sociales, qui s'interroge sur qu'est-ce qu'on enseigne à l'école ou qu'est-ce qu'on enseigne dans nos cours de FLE. Moi, j'ai été 10 ans formatrice FLE avant d'être à l'université. Est-ce que ces pratiques que l'on enseigne ne sont pas déconnectées des réalités sociales et des usages sociaux de la langue ? Je crois qu'on peut dire que ce qu'on enseigne à l'école est relativement déconnecté des usages sociaux. La maîtrise de la langue que l'on nous demande de développer ne correspond pas réellement à ce que l'on peut entendre des pratiques sociales de la langue. Peut-être en introduction, je me disais que je vais vous faire écouter alors d'abord la définition que donne Philippe Blanchet qui vient d'écrire cet ouvrage « Discrimination, combattre la glottophobie ». Et il était invité le 8 avril sur France Culture à en débattre. Alors il y avait Azouz Begag et il y avait une ancienne enseignante qui est formatrice en éducation populaire, j'ai oublié son prénom, Chenouf, et elle dit, on va écouter ça si vous voulez bien pour voir si on se reconnaît un peu dans les formations que nous avons reçues et finalement quel agent on a fabriqué en nous vis-à-vis de cette question de l'enseignement du français. Tu veux bien alors Sébastien ?
Alors jusqu'à la publication du livre du linguiste Philippe Blanchet, j'ignorais que j'étais victime de glottophobie, une forme de discrimination qui consiste à stigmatiser quiconque ne maîtrise pas correctement la langue dominante, à savoir le français. Discrimination sans conséquence en ce qui me concerne, mais qui peut s'avérer autrement plus handicapante quand elle a pour effet d'exclure socialement celles et ceux qui ne rentrent pas dans le cadre défini, semble-t-il une fois pour toutes, par les règles de la grammaire et de l'orthographe. L'étendue plex des studios de France Bleu Brésisel à Quimper, c'est Philippe Blanchet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes linguiste, professeur de sociolinguistique à l'université Rennes 2 et vous venez de publier aux éditions textuelles « Discrimination, combattre la glottophobie ». Alors je dois dire que c'est la publication de votre livre qui nous a donné envie de faire cette émission de ce soir. Il faut bien entendu commencer par le commencement, c'est-à-dire définir ce terme de glottophobie, dont je précise d'ailleurs que quand je l'ai tapé sur mon ordinateur, eh bien ce mot-là n'était pas accepté par le correcteur d'orthographe. Alors qu'est-ce que c'est, Philippe Blanchet, que la glottophobie ?
Alors la glottophobie, effectivement, c'est un mot que j'ai inventé pour désigner cette attitude qui consiste à discriminer les personnes en prenant pour prétexte arbitraire, illégitime et donc injuste la langue qu'elles parlent ou la façon dont elles parlent une langue.
Ça veut dire que cette glottophobie, donc ça existe dans toutes les langues, ou eh bien est-ce que c'est quelque chose que vous sentez particulièrement présent dans la langue française ?
Alors, c'est pas tant dans les langues que ça se situe, c'est dans les sociétés. Il y a des sociétés qui sont plus ou moins ouvertes à la variété des façons de s'exprimer des gens, et des sociétés qui le sont moins. Et il est vrai que la société française est un cas particulier de société particulièrement crispée sur une seule langue et une seule façon de la parler, et qui a érigé la glottophobie quasiment en idéologie nationale, au point d'ailleurs de ne pas la considérer comme une discrimination.
Alors, Ivan Chenouf.
Oui, oui, oui. Moi, quand j'ai découvert les travaux de Philippe Blanchet, que je ne connaissais pas, donc je les ai découverts à l'occasion de cette émission, je me suis sentie très mal personnellement, parce que j'ai été formée à l'école normale. Et donc j'ai appris que la langue de la France était le français. Et j'ai gardé longtemps cette idée que dans une école, donc j'ai fait acte de glottophobie, je m'en excuse, ce soir je ferai pénitence, mais en disant aux parents, dans le cadre de l'école, on parle en français et uniquement en français, et moi j'ai pratiqué ce genre de choses. Donc je me suis rendu compte là récemment de ce qui est en train de dire, qu'on crée des malaises supplémentaires par ce genre d'attitude, et je crois que ça se dit encore que dans le cadre de l'école, on parle le français.
Cette enseignante dit qu'à l'école normale, elle a été formée finalement. Elle s'en rend compte avec la publication de cet ouvrage et cette prise de conscience. Elle a été formée à être un agent glottophobe. Parce que, d'une part, elle disait aux parents qu'il fallait... Alors, je vais vous montrer dans une enquête que l'on a faite sur l'échec scolaire. Tu peux tout mettre. Les causes principales évoquées par les enseignants, mais si on regarde les discours, les différents rapports d'IGEN, mais aussi les rapports du Conseil de l'Europe, on retrouve souvent que c'est une question de non-maîtrise de la langue de scolarisation, donc pour nous, non-maîtrise du français, et c'est d'ailleurs au centre de tous les programmes, ne pas être exposé en famille à la culture légitimée, hein, et on entend même que y a pas de culture dans les familles, hein, la culture, définie au singulier, le manque d'intérêt des parents et parler à la maison d'autres langues que le français. Et donc Chenouf dit dans cette émission, que vous pouvez donc du coup podcaster et écouter, qu'elle a été formée à dire aux parents qu'il fallait parler français à la maison et à rejeter les pratiques populaires du français que les parents amènent à l'école forcément, puisque c'est avec ces usages-là qu'ils grandissent. On a en France une conception assez monolithique et immuable de la langue, hein, ce français qui est sacralisé. L'histoire de la langue française montre bien d'ailleurs qu'on n'a pas toujours accueilli les emprunts linguistiques à d'autres langues, et on a voulu figer cette langue. Et nous avons été formés quelque part, il me semble, vous me direz, à l'idée que un dieu aurait donné une langue standard, et les humains en auraient fait de la variation. Par leurs usages, cette langue serait variée. Or, les sociolinguistes montrent bien que c'est l'inverse. Hein. Il y a des pratiques linguistiques, des grammairiens et des structuro-linguistes ont voulu en faire un standard, qu'on nous demande d'enseigner au nom de la réussite sociale, de l'insertion professionnelle, de l'insertion culturelle, etc. Sauf qu'en faisant ça, on crée de l'insécurité linguistique. Et si mes travaux sont centrés prioritairement sur la question des discriminations linguistiques à l'école et du rôle que nous, en tant qu'acteurs glottopolitiques, on peut avoir pour modifier ça, alors dans la société actuelle telle qu'elle est, avec ses rapports de domination, cette légitimation de la langue majoritaire, standard, on est bien obligé d'amener les élèves vers ça. Mais il y a différents moyens de les amener vers ça, et on peut les amener vers ça sans créer de l'insécurité linguistique. Et c'est, alors là, on est trop loin, c'est ce que je voulais montrer aussi à travers un certain nombre, mais peu, parce que Sébastien m'a bien dit 20 diapos maximum, hein, donc j'ai essayé de concentrer. Vous montrer par exemple là, ce rapport des IGEN sur les initiatives innovantes, les pédagogies innovantes en matière de maîtrise de la langue. vous voyez que l'on vous dit qu'il faut que l'enfant se hisse. Hein. On est bien dans une hiérarchisation des pratiques linguistiques, avec en haut une langue et en bas d'autres. Hein. Dans les anciens programmes, les pré-programmes de 2008, il y avait même l'idée de corriger les énoncés bas des élèves. Hein. Corriger tout énoncé incorrect, argotique et bas. C'est une vision extrêmement hiérarchisante. Donc il faut hisser les élèves vers ça. On vous dit que finalement le rapport à la langue avec des élèves est schizophrénique parce qu'ils ne voient pas que c'est la langue naturelle des échanges sociaux. Non, ils voient très bien, c'est pas la langue naturelle des échanges sociaux, la langue que l'école enseigne. C'est la langue de l'école. Alors heureusement, on va le voir dans un petit concentré des programmes, des nouveaux programmes, que maintenant on parle un peu plus de langue de l'école, ce qui replace la langue qu'on enseigne à sa juste place. Hein, et d'ailleurs, les élèves qui sont formés à des approches sociodidactiques, puisque moi, je suis à la fois didacticienne et sociolinguiste, donc j'essaie que ma didactique, elle soit en lien avec les analyses, les recherches en sociolinguistique, et on arrive très vite à former les élèves à cette attention, cette observation de la langue et de ses usages. Vous voyez une élève, qui est d'ailleurs une ancienne primo-arrivante, qui dit maîtresse, ton nœud de négation, moi je ne l'entends pas dans la cour, puisque l'enseignante est en train de travailler la syntaxe correcte, la morphosyntaxe de la phrase négative. Et j'ai l'impression qu'en passant de la façon Mac, il y a une superposition. Le deuxième exemple de l'enfant, d'une autre enfant, là l'enseignante travaille sur la question en français, avec l'inversion verbe-sujet. Une autre élève dit, mais moi je n'entends pas ça non plus, hein. Comment on pose les questions maîtresse en français? Moi, dans la cour, on m'a dit « tu fais quoi ?» Et j'ai aussi entendu autrement avec « qu'est-ce que tu fais ?» Je ne l'ai pas entendu, donc « que fais-tu ?» Donc, ces décalages-là, selon comment nous, on accueille les décalages entre les pratiques linguistiques ordinaires des élèves, celles avec lesquelles ils sont en contact, et celles que l'institution nous demande pour amener les élèves à la réussite des évaluations, selon comment on les accueille, on crée ou pas de l'insécurité linguistique. Les manuels ne nous aident pas, hein, puisque l'oral en classe... Alors, on travaille depuis 5 ans avec des enseignants d'école primaire et maintenant de collège à un dispositif radiophonique qui inclut la pluralité des usages du français et des autres langues des élèves pour travailler autrement l'oral. L'oral, les enseignants nous le disent, on le travaille peu, pas assez bien, et on le travaille et on l'évalue en fonction de l'écrit. Et ça pose un problème aussi et ça crée de l'insécurité linguistique. Et on n'a pas des bons outils. Un enfant du sud de la France qui n'entend pas de distinction entre le « et » et le « est », ce type d'outil ne l'aidera pas dans ses difficultés orthographiques, qui sont des aberrations de la langue française. Il faut toujours penser que si nos enfants étaient italiens ou espagnols, ils auraient pour ensemble la même graphie. Et que nous, notre système impose, crée de la sélection par le système orthographique qu'on a choisi et auquel on ne veut surtout pas toucher, parce qu'on a eu du mérite à l'acquérir et on n'a pas envie de renoncer aux efforts que l'on a fait pour acquérir ce système. Hein. La langue dans les manuels, avec les manuels qui ont des dossiers sur registre et niveau de langue, présente une langue réduite, hiérarchisée. On fait comme si dans telle situation de communication, il y avait un registre particulier. Mais non, on passe notre temps constamment dans un continuum. Là, je suis en train d'utiliser plusieurs registres. Si pour nous, il n'y a pas de registre, il y a constamment dans nos observations des pratiques langagières de la variation. Et on fait de la didactique des variétés, c'est-à-dire on va dire, bah tiens, là, tu peux utiliser cette variété, mais vous voyez, on met des cloisons dans les variétés du français, alors que la langue, c'est constamment de la variation. Même quand on écoute un philosophe à la radio sur France Culture, on va bien entendre qu'il varie d'un style à un autre. Et d'ailleurs, on devrait plus parler de style aux enfants que de registres et de niveaux qui cloisonnent. Et Alain Bentolila, qui a coordonné un ouvrage du CM2, Études de la langue, vous avez alors une planche extraordinaire où on dit aux enfants que le registre, alors je ne sais plus s'il dit registre familier, c'est grouille-toi, le registre courant, c'est dépêche-toi, et le registre soutenu, c'est hâte-toi. Quel enfant entend hâte-toi? Enfin, c'est... Hein. Et le pire...
C'est la directrice de l'école qui dit...
Oui, mais dans les écoles, elle dit pas ça, elle dit dépêche-toi, fais vite. Oui, c'est ça. Mais l'enfant, il doit apprendre qu'il faut, dans telle situation, avec tel interlocuteur. Parce que le pire, c'est quand même, on te dit en bas que le registre soutenu est à utiliser avec des personnes importantes. En plus, quel regard on donne sur les relations humaines, hein ? C'est incroyable quand même. Les enseignants avec qui on a travaillé donc ce projet radio, on en a fait un petit livre avec la prof des écoles qui est devenue formatrice Red Plus en didactique de l'oral avec qui on a travaillé pendant des années, puis fini par